Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous permettre de commenter la dernière parution du Centre des professions financières intitulée L'année des professions financières 2011. Et ce centre est présidé par Edmond Alfandéry, ancien ministre, que j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre antenne. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour Jean-Louis Chambon.
Merci d'avoir pris un peu sur votre temps, que je sais très précieux. Nous allons donc évoquer cette parution qui est devenue, au fil des années, une référence, je dirais presque un classique pour la profession financière. Alors cette dernière parution a choisi de se consacrer au thème de la crise de la dette et du financement de la nouvelle croissance. C'est un ouvrage qu'il est donc auto-publié, j'imagine. 283 pages, 25 euros. Donc on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. C'est dire avec ce titre que votre ouvrage est en plein dans l'actualité. Tous les jours, on en a la preuve. Cet ouvrage collectif est donc devenu, comme je vous le disais, au fil des années, un classique, très attendu non seulement par les professionnels de la finance, mais aussi par un large public, y compris les étudiants, qui peuvent trouver des éclairages sur l'univers de la planète finance en constante ébullition, puisque comme vous l'aviez remarqué dans l'ouvrage précédent en 2010, qui s'intitulait « Les mutations de la finance ». Alors, outil de référence et d'information des professions financières, vous explorez dans cette nouvelle année l'impact durable des dettes nationales sur la croissance et surtout, peut-être, les choix possibles pour les institutions et les gouvernements pour en limiter les conséquences. Alors, nous allons revenir sur ces grandes questions. Je rappelle auparavant que le Centre des professions financières fonctionne comme un think tank, peut-être vous en direz quelques mots, est composé d'éminentes personnalités, parmi lesquelles on trouve, comme présidente du comité de rédaction, Madame Denise Flouza, ainsi que de nombreux universitaires, Jean-Marc Daniel, Olivier Pastré, Michel Roux. Alors, pour votre part, Monsieur le Ministre, très brièvement, j'indique que vous avez occupé cette prestigieuse fonction de 1993 à 1995, je ne me trompe pas, c'est bien ça, et que donc sous le gouvernement Balladur, on se souvient du grand emprunt et aussi du code de la consommation, entre autres, mais vous aurez certainement d'autres éléments à nous donner. Vous avez été président d'EDF et vous êtes toujours, j'imagine, professeur d'université à Assas, enfin en tout cas vous l'avez été.
Je suis professeur émérite, mais maintenant je préside la CNP.
D'accord.
La compagnie d'assurance CNP. CNP
vous présidez la CNP Assurance. Alors, homme politique par ailleurs, et vous êtes donc un grand défenseur de l'euro et de l'Europe. J'imagine que l'actualité doit être douloureuse pour vous, comme pour beaucoup d'ailleurs.
Oui, oui. C'est une crise que nous surmonterons.
Alors, vous avez cet ouvrage assez remarquable, s'ouvre sur un entretien bilatéral entre l'économiste bien connu Jean-Marc Daniel, membre d'ailleurs du Cercle Turgot, et vous-même. Et vous avez un échange sur trois grandes questions. Et je vous propose que nous reprenions ces trois grandes questions. La première question, c'est la crise est-elle terminée ? La seconde question, c'est de savoir quelles leçons on peut tirer de cette crise. Et enfin, peut-être le plus important, quelles sont les pistes que l'on peut tenter d'explorer, en tout cas pour les gouvernements, pour cette nouvelle croissance, entre rigueur et relance en quelque sorte. Alors peut-être, avant d'aborder la première question, un commentaire sur cette très rapide présentation sur laquelle j'ai peut-être oublié quelques éléments, peut-être sur le centre des professions financières, peut-être un mot d'historique ou de replacement en perspective.
Si vous voulez. Le Centre des professions financières est une association sans but lucratif d'utilité publique dont l'objectif est de promouvoir les professions financières. Nous avons comme devise comprendre et faire comprendre les professions financières. À un moment où beaucoup d'activités financières sont décriées, notamment dans la presse, il est important que le Centre des professions financières resitue le rôle des professions financières qui est très important dans notre économie. La finance, c'est quand même le sang d'une économie, donc les activités financières sont très importantes. Et donc, nous sommes très actifs, nous recevons notamment à l'occasion de déjeuners, de prestige absolument tout ce qui compte pas seulement dans le monde de la finance, mais aussi dans le monde de l'industrie, dans le monde de la politique. Nous faisons très souvent des petits déjeuners à thème sur des questions d'ordre économique et financier un peu plus pointues. Nous avons aussi des auteurs qui écrivent des livres, qui viennent participer à des débats sur les ouvrages qu'ils ont écrits. Nous avons des conventions, nous animons beaucoup de manifestations de toutes sortes, plus ou moins d'ailleurs intellectuelles. Et je crois que nous avons notre place dans le paysage, dans le paysage français. Voilà. Et on essaie d'apporter notre contribution à la réflexion économique et surtout à attirer des jeunes. Nous avons un certain nombre de clubs qui fonctionnent de manière plus ou moins autonome. Et parmi eux, nous avons un club des jeunes financiers auquel nous tenons beaucoup parce que c'est évidemment la pépinière de demain.
Bon, bah écoutez, c'est un club alors qu'on invitera sur, voilà, sur notre antenne aussi avec les jeunes. Hein. Donc nous en venons à notre question au sujet de cet ouvrage qui paraît à chaque année à peu près à cette époque. Oui. Hein, c'est le volume numéro 6, donc voilà, j'en déduis qu'il y en a eu 6. Question, échange avec Jean-Marc Daniel. La crise est-elle finie?
Oui. Alors, la crise est finie. Il est incontestable que nous avons traversé une tempête économique et financière d'une ampleur tout à fait considérable, comme on n'en a pratiquement pas connu depuis la grande crise de l'entre-deux-guerres des années 30 et des années 1930. Et incontestablement, nous en sommes sortis de cette tempête. La croissance est repartie. La France va faire une croissance qui pourrait s'approcher de 2% en 2011. L'Allemagne un peu plus. Les États-Unis auront une croissance positive cette année aussi. Et donc, globalement, on peut dire que, lorsqu'on regarde les choses grossièrement, que l'économie internationale a rebondi. Pour autant, nous ne sommes pas complètement sortis de cette crise. Nous n'en sommes pas complètement sortis. Il y a encore beaucoup de symptômes et beaucoup d'inquiétudes. On le voit, par exemple, j'en donnerai quelques manifestations. On le voit d'abord aux États-Unis, où la conjoncture, qui semblait être très fortement repartie à la fin de l'année dernière, au début de cette année, est en train de fléchir. Le secteur, notamment de la construction de logements, ne se porte pas bien. Le prix des logements continue à baisser aux États-Unis, ce qui est un très mauvais indice. Et aux États-Unis, on voit poindre certaines inquiétudes, surtout lorsqu'on voit que la Banque fédérale de réserve a arrêté sa politique de ce qu'on a appelé le « quantitative easing 2 », c'est-à-dire de politique de création monétaire supplémentaire qui a été lancée à l'automne dernier. Et cet arrêt de la politique monétaire agressive suscite des inquiétudes quant à l'évolution de l'activité économique aux États-Unis. Certains pensent même qu'on pourrait se retrouver devant ce qu'on appelle un « double dip », c'est-à-dire un replongeon, un plongeon de l'économie américaine. Je n'en suis pas certain, mais enfin, en tout cas, aux États-Unis, il y a certains éléments d'inquiétude. On le voit en Europe, et d'ailleurs c'est le résultat de la crise, et j'y viendrai tout à l'heure, où dans la zone euro, un certain nombre de pays périphériques, on parle beaucoup de la Grèce, mais la situation en Irlande et au Portugal n'est pas très fameuse. On voit une crise dans la zone euro qui est le résultat, l'un des résultats de la crise, l'un des éléments qui explique la situation dans la zone euro vient évidemment de la crise financière, même si ça n'est pas la seule. Puisque, comme vous le savez, pour riposter à cette crise, les États ont été conduits, ont été incités, fortement incités, notamment par le Fonds monétaire international, à augmenter leurs dépenses publiques, à faire du déficit. Et des pays qui étaient fragiles, comme la Grèce ou l'Irlande, voire même l'Espagne, se sont retrouvés avec des situations financières très difficiles à la sortie de la crise. Une troisième manifestation qui montre bien que nous ne sommes pas encore totalement sorti, ou même pas vraiment sorti de la crise, c'est ce qu'on appelle les déséquilibres mondiaux. Et là, il faut revenir à l'origine de la crise. Je crois maintenant qu'il y a un assez large consensus sur les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés là où nous sommes. Il y a eu une conjugaison d'événements dont l'essentiel est venu de la politique monétaire américaine.
Ouais, l'excès de liquidité, etc.
De l'excès de liquidité et parallèlement d'un système qui s'est construit depuis pratiquement la dernière crise asiatique de la fin des années 90, ouais, qui a été l'arrimage d'un certain nombre de monnaies, notamment le RMB, la monnaie chinoise, mais aussi beaucoup d'autres monnaies, au dollar. Une sorte de reconstitution d'une pseudo-zone dollar qui a fait que les deux phénomènes réunis, il y a eu d'abord une politique monétaire américaine extrêmement laxiste au début des années 2000, essentiellement parce que les Américains ont eu peur de la déflation, et donc ils ont créé énormément de liquidités, ils ont fait baisser les taux d'intérêt dans des proportions à mon avis, très excessive, et c'est l'avis de beaucoup de gens. Et parallèlement, il y a eu ces déséquilibres macroéconomiques entre les États-Unis, qui ont fait un déficit considérable, et d'autres pays qui ont systématiquement cherché à faire des excédents de leur balance des paiements courants. Ça a été le cas de la Chine, mais la Chine n'a pas été la seule, d'ailleurs. Il y a eu des pays exportateurs de pétrole, beaucoup de pays, d'ailleurs, asiatiques, et qui ont accumulé par là même énormément de réserves. Tout cela créant des déséquilibres mondiaux, notamment une accumulation de liquidités qui a aussi contribué à une baisse de taux d'intérêt. Et tout cela a entraîné sur le plan financier, a été un élément qui, pendant quelques années, a, dans l'ensemble des banques et beaucoup d'établissements financiers, cela a été un élément qui a conduit beaucoup de banques à sous-estimer le risque qui existait sur les marchés. Et donc, à mettre sur le marché, d'abord à prendre beaucoup de risques, à distribuer énormément de crédits, et à distribuer aussi beaucoup de produits structurés, notamment titrisés, dans des proportions considérables, qui, pour beaucoup, sous-estimaient le risque sous-jacent à ces produits. Ça a été notamment le cas des subprimes, qui étaient évidemment plus connus. Tout cela pour dire que l'un des éléments essentiels qui a été à l'origine de la crise, il y a deux éléments qui sont à l'origine de la crise, c'est la raison pour laquelle je crois que nous ne sommes pas vraiment sortis de la crise. Il y a même trois éléments essentiels. Le premier, c'est l'afflux considérable de liquidités dans le monde. Et donc la politique monétaire, conduite notamment par la Banque fédérale de réserve, jusque dans les années 2005, entre 2002 et 2005, ça a commencé, la politique monétaire américaine a commencé à se resserrer à partir de 2005. Et ce volume de liquidités considérable, eh bien, il est toujours là. Il est toujours là, et plus que jamais. Tout simplement parce que, pour lutter contre la crise, les autorités monétaires ont été obligées de desserrer les taux monétaires. Et donc, par là même, cela a conduit à des politiques de baisse de taux d'intérêt tout à fait considérables, comme on n'en a jamais connu, même avant la crise, puisque les taux sont quasiment pas loin de zéro, en tout cas aux États-Unis.
Ça veut dire que c'est l'épargnant qui paye un peu la note. Puisque...
Ça veut dire que, si vous voulez, pour activer l'économie, on a fait en sorte que le crédit soit le moins cher possible et que les banques aient le plus de capacité à prêter. Et par là même, aujourd'hui, il y a un volume de liquidité considérable. Et donc, si cela dure, cela inquiète notamment, il y a une appréciation différente entre la Banque Centrale Européenne et la Banque Fédérale de Réserve quant à la politique à poursuivre. Mais la Banque Centrale Européenne a très envie de remonter les taux le plus vite possible. Elle a déjà d'ailleurs fait un premier pas il y a quelques semaines et elle envisage d'en faire un second au mois de juillet. La Fed maintient sa politique de taux très très faible, quasiment nul, mais cela s'accompagne d'un volume de liquidité très considérable, et donc les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Donc on a déjà là une source de grande inquiétude pour l'avenir. Tant que la politique qui est conduite en Angleterre ou au Japon sont des politiques qui sont conduites par les banques centrales, qui sont elles aussi très expansionnistes. Le second facteur d'inquiétude, c'est que, comme je vous l'ai dit, la crise est née de ces déséquilibres de balance des paiements courants. Or, ces déséquilibres, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Alors, c'est vrai que le déficit de balance des paiements courants américain a un peu diminué sous l'effet de la crise, mais ils sont toujours là. Et le troisième sujet d'inquiétude, c'est que nous n'avons pas encore complètement stabilisé le système financier, le secteur bancaire. Il y a eu des progrès qui ont été faits. Il y a la législation Dodd-Frank aux États-Unis, il y a des dispositions qui ont été prises en Europe. Il n'empêche que nous n'avons pas fait tout ce qu'il conviendrait de faire pour éviter que des excès ne se reproduisent. Donc, nous sommes dans une situation où, encore préoccupante, même si aujourd'hui, grâce aux politiques économiques, notamment politiques monétaires de relance extrêmement fortes, nous avons évité la dépression. Nous avons une récession très forte, nous n'avons pas eu de dépression d'activité économique. Je pense que dire aujourd'hui que nous sommes totalement sortis définitivement de la crise serait faire preuve d'excès d'optimisme.
Mais alors, justement, vous insistiez dans les réponses que vous faisiez à Jean-Marc Daniel sur, bien sûr, cette dimension cyclique et surtout le fait que vous avez été frappé que toutes les économies avaient été touchées, que par ailleurs, il y avait de fortes disparités, c'est ce que vous venez de rappeler dans la sortie de crise, et en distinguant deux blocs, et là nous sommes intéressés, les compétitifs avec en tête l'Allemagne, et puis les perdants dans lesquels on trouve la France et les États-Unis. Et alors, quelles sont les leçons que l'on tire de cette crise, et notamment en matière de politique monétaire et de régulation financière ?
Oui, il y a beaucoup de leçons à tirer. Beaucoup de leçons à tirer. Et je crois que nous n'avons pas encore tiré toutes les leçons de cette crise, notamment dans le domaine financier. Je dirais simplement plusieurs choses. La première, c'est que vous avez raison de dire que la crise a été abordée différemment par les pays émergents, les pays industrialisés. Les pays émergents sont en train de connaître un véritable décollage de leur économie, qui a commencé, disons, à la fin des années 90. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce décollage est un phénomène absolument impressionnant qui, à mon avis, va durer et qui, probablement, est le plus grand facteur de stabilisation de l'économie internationale que nous ayons. Heureusement que nous avons ce décollage, cet effet d'entraînement de l'économie internationale par des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, la Turquie, en fait tous les pays.
Mais la durée de l'hypercroissance chinoise, ne vous inquiète pas, je crois qu'on n'a jamais vu dans l'histoire une croissance aussi forte pendant aussi longtemps sans que ça ne crée de profondes tensions, et y compris évidemment quand on replace cette argumentation sur le phénomène chinois où il y a quand même des risques sociaux latents, en tout cas on peut le craindre, fort. Donc la Chine reste une énigme quand même.
Bien sûr. Non, je partage totalement avec vous le sentiment qu'un pays qui croît à un rythme de 8 à 10% par an, pratiquement tous les ans, pendant, ça dure depuis une dizaine d'années, ça crée des tensions considérables sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan de l'équilibre macroéconomique. C'est certain que les déséquilibres sont considérables. Il n'empêche que, dans l'ensemble des pays émergents, les ressources qui restent à exploiter, qui sont des ressources humaines en réalité, sont considérables. C'est-à-dire que, au fond, qu'est-ce qui fait la croissance de ces pays ? C'est le fait que vous avez des millions et des millions d'hommes qui entrent dans l'économie de marché. Formés suffisamment pour travailler, c'est le travail qui fait la richesse, et qui donc produisent et qui créent de la richesse. Et vous avez en Chine, bon, il y a peut-être 1 milliard 300 ou 1 milliard 400 millions de personnes. Combien en avez-vous qui sont vraiment dans l'économie de marché aujourd'hui ?
Quelques centaines.
Je ne sais pas, mais disons 300, 400 millions, ou peut-être 500 millions, je n'en sais rien. Certainement moins de 500 millions. Donc vous voyez qu'il y a encore des masses considérables. Un espace considérable de gens qui vont progressivement accéder à l'économie marchande, qui se forme, et donc qui vont créer de la richesse par leur travail. C'est le cas de l'Inde, c'est le cas de l'Amérique latine, etc. Et donc vous avez encore, à mon avis, le take-off, le redémarrage des pays émergents n'est pas terminé, tout simplement parce qu'il y a un rattrapage. Il faut se souvenir que la situation dans le monde qu'on a connue depuis la révolution industrielle jusqu'à il y a une quinzaine d'années était totalement anormale. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire de l'humanité, l'essentiel de la richesse et des revenus jusqu'au XVIIIe siècle était en Asie. C'était là où étaient les grandes masses humaines, c'est là où était d'ailleurs la grande partie de la civilisation. Et donc, lorsque toutes ces populations qui vont en augmentant progressivement acquièrent des connaissances, ont de la formation, eh bien, cela crée évidemment une richesse considérable et cela déséquilibre d'ailleurs la répartition de la formation de la richesse dans le monde. Alors, il y a un effet d'entraînement, évidemment, pour le reste du monde, qui est considérable et qui est un facteur de stabilisation pendant les années à venir. Est-ce que tout ça ne s'accompagnera pas de crise ? Dieu seul le sait. Ça n'est pas impossible du tout. On n'est pas à l'abri de problèmes sociaux en Chine, de problèmes environnementaux, on en a vu, et on en aura d'autres. Mais globalement, je crois que c'est une force, une très grande puissance. Et il y a là une sorte de locomotive mondiale. Alors, les pays industrialisés en profitent. Ils en profitent, et d'ailleurs, c'est ce qui a permis, à mon avis, d'amortir la crise et d'éviter que le monde sombre en dépression. Maintenant, c'est vrai que les pays industrialisés qui ont le plus joué la compétitivité sont ceux qui en profitent le plus. Pourquoi ? Parce que naturellement, leurs produits étant compétitifs, ils arrivent à vendre en Chine, au Brésil ou ailleurs, et donc ils bénéficient à plein de la croissance de ces pays-là. Les pays qui ont sacrifié leur compétitivité, ou en tout cas qui n'ont pas fait le même effort depuis plusieurs années, en bénéficient beaucoup moins. C'est le cas des États-Unis, qui ont évidemment un problème de compétitivité depuis longtemps. C'est le cas du Royaume-Uni. Dans une certaine mesure, en Europe, il y a des pays qui ont réussi mieux que d'autres à maintenir leur compétitivité, le cas de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de l'Autriche et bien d'autres. D'autres ont moins bien réussi et c'est pour ça qu'il faut impérativement qu'ils fassent les efforts nécessaires pour profiter à plein de ce décollage des pays émergents et c'est le cas de notre pays.
On en vient au cœur du sujet avant de terminer sur des questions d'actualité. En quoi la dette, le niveau sans précédent de dette dans les pays industrialisés, enfin les pays avancés et l'Europe en première ligne avec les États-Unis, est une menace durable pour la nouvelle croissance, pour la croissance, et quelle nouvelle croissance trouver pour répondre à ce dilemme d'avoir à la fois appuyé sur le frein et l'accélérateur, rigueur et relance.
Oui, si vous voulez, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sont en grande partie le résultat des politiques qui ont été conduites, à la fois des orientations qui ont été celles avant la crise et pour faire face à la crise. Et c'est l'endettement, c'est le problème de la dette qui est évidemment au cœur des préoccupations. D'abord l'endettement privé. La crise est venue, dans une large mesure, je l'ai expliqué tout à l'heure, de politiques monétaires beaucoup trop laxistes pendant trop longtemps, qui ont entraîné une importante augmentation de l'endettement privé. Ça a été l'augmentation de l'endettement privé des ménages aux États-Unis, qui a entraîné la crise des subprimes. Ça a été aussi l'endettement privé en Europe, où un pays comme l'Espagne, qui était un pays qui avait des fondamentaux en matière de finances publiques extrêmement bien tenus, puisque c'était un des rares pays qui, au moment de l'entrée en crise, en 2007-2008, respectait les critères de Maastricht, et donc n'avait pas d'endettement public, puisqu'ils étaient même en excédent. Oui, je crois qu'en 2007, il me semble que l'Espagne devait être, ou en tout cas, à l'équilibre budgétaire. Eh bien, ce pays-là a subi aussi un véritable dérapage de son endettement privé pour la construction de logements. Ça a été aussi le cas de l'Irlande, ça a été aussi le cas du Royaume-Uni, où les taux d'intérêt très bas ont conduit les banques à distribuer des crédits et les particuliers à surinvestir. Donc ça, c'était le premier problème que nous vivons encore aujourd'hui. Et l'un des problèmes que nous rencontrons, notamment dans la zone euro, vient dans des pays comme l'Irlande, voire l'Espagne. Il y a encore un excès d'endettement privé qui fait qu'il va falloir attendre que les ménages aient réduit suffisamment leur endettement, mais ils ne peuvent le faire que par une réduction de leur consommation, qui a un impact évidemment sur l'activité économique, avant d'espérer de pouvoir repartir. Et donc ça, c'est l'héritage d'avant la crise, l'endettement privé. En France, nous avons beaucoup de chance, en Allemagne aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vrai dérapage de l'endettement privé. Alors, il y a eu un deuxième problème. Vous voyez que l'endettement est au cœur des préoccupations d'aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est l'endettement public. Nous avons abordé la crise dans des situations où l'endettement public, en général, n'était pas catastrophique. Même si, dans l'ensemble du monde, même si certains pays avaient des finances publiques mieux tenues que d'autres. Lorsque la crise s'est déclenchée, l'ensemble de la communauté internationale, dans le cadre du G20, mais aussi le Fonds monétaire international, ont donné un mot d'ordre aux banques centrales, c'est évidemment de lâcher du lest sur le plan de la politique monétaire et donc de faire baisser les taux d'intérêt et donc d'essayer de relancer le crédit, notamment privé. Et un mot d'ordre aux autorités politiques, c'est d'ouvrir les vannes budgétaires et de faire du déficit budgétaire pour soutenir l'activité économique. Je ne suis pas convaincu personnellement que ce mot d'ordre était le bon. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la politique budgétaire a une très grande efficacité et je ne suis pas sûr que nous ne payons pas un prix démesuré pour la politique qui a été conduite. Et la conséquence de cela, c'est que les finances publiques, l'endettement public, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays, notamment industrialisés, surtout industrialisés, parce que les pays émergents n'ont pas eu besoin de cela pour se redresser, ces finances publiques ont été complètement déstabilisées. Alors, c'est le cas des États-Unis, qui connaissent une progression de leur endettement qui commence à être préoccupant, et avec un débat politique très, très rude entre les républicains et les démocrates sur ce qu'il convient de faire. Faut-il soutenir l'activité, comme le proposent certains démocrates, en continuant à dépenser ou à réduire les impôts? Ou au contraire, faut-il réduire l'endettement, comme le proposent certains républicains? Et vous voyez qu'il y a, au niveau du Congrès, de très grandes difficultés entre ces deux partis politiques. C'est le cas aussi au Royaume-Uni, où il y a eu un très grand dérapage des déficits publics, qui a conduit le gouvernement Cameron à prendre des dispositions extrêmement dures, extrêmement drastiques, Mais c'est le cas aussi dans la zone euro, où beaucoup de pays ont vu leurs finances publiques déstabilisées. Et ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Irlande, ce qui se passe en Espagne, était évidemment l'une des conséquences de cet endettement, de cette aggravation de l'endettement.
Alors comment aller rechercher, monsieur le ministre, des gisements d'une nouvelle croissance, puisqu'on voit bien que, quelque part, les ressorts classiques, et notamment de la consommation, sont en train de faiblir lourdement. Donc, aller chercher comment ? Par de l'innovation, par de la technique et le progrès industriel et l'investissement, bien entendu.
Bien sûr. Si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas... Donc, dans une situation compliquée comme celle que nous vivons, une situation de sortie de crise, et il ne faut pas essayer de trouver des remèdes miracles qui n'existent pas. Et donc, il faut travailler en profondeur et accepter que les réformes qui sont nécessaires pour revenir à un rythme de croissance convenable sont des réformes qui demandent du temps avant d'avoir des effets positifs. Alors, d'abord, la première des choses qu'il convient de faire, c'est de restaurer la compétitivité. Ça, c'est absolument capital. L'Allemagne...
C'est vrai, en particulier pour la France.
Oui, mais l'Allemagne, on l'oublie trop. L'Allemagne avait une situation, dans les années 90, qui n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Elle avait une balance des paiements courants qui a été déficitaire pendant plusieurs années, dans les années 90, après la réunification. Et elle avait perdu énormément de compétitivité. L'économie française était beaucoup plus compétitive que l'économie allemande dans les années 90. Et lorsque nous avons créé l'euro, l'Allemagne est entrée dans l'euro avec un mark, enfin avec une monnaie qui était surévaluée. C'est ainsi, le mark est entré dans l'euro, la valeur du mark était surévaluée. Et les Allemands ont compris, d'ailleurs dans un consensus très germanique, ont compris, c'est-à-dire avec l'accord des syndicats, ils ont compris qu'il fallait accepter de faire des sacrifices en matière salariale pour restaurer la compétitivité de l'économie allemande. Ça leur a demandé 10 ans. Et pendant 10 ans, ils ont fait des efforts au niveau de la compétitivité des charges, des salaires, de l'investissement, etc. Et au bout de 10 ans, évidemment, les efforts ont porté leurs fruits. Et aujourd'hui, ils ont une croissance qui va être de supérieure à 3%, et donc nettement supérieure à la plupart des autres pays. Donc, la première des choses, le premier message qui est important, c'est qu'il faut faire une politique de compétitivité. Alors, ce n'est pas forcément une politique salariale. Nous n'avons pas des salaires ou des charges salariales qui sont beaucoup plus élevées que les Allemands. C'est tout un ensemble, la compétitivité. C'est aussi l'innovation, c'est la formation, c'est l'investissement. Ça suppose donc tout un effort, notamment de financement des PME, etc. Il y a toute une politique à conduire, qui est d'ailleurs conduite par le gouvernement, qui a fait beaucoup de choses. Ce serait très injuste de ne pas le reconnaître. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Mais je crois qu'il faut que nous continuions à le faire pendant les années qui viennent. Et je souhaite d'ailleurs qu'à l'occasion du débat politique qui va avoir lieu, il y ait un consensus sur ce plan. De là, on peut l'aborder avec plusieurs approches politiques, évidemment. Mais la compétitivité de notre économie est absolument essentielle. Alors ça, c'est un premier point. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La croissance nécessite aussi des choix. Elle nécessite des choix industriels et elle nécessite des choix politiques. Je pense aussi que ce qui est extrêmement important dans la croissance, c'est la qualité de la formation des hommes. C'est la formation des hommes. On n'insistera jamais assez là-dessus.
Alors, une nouvelle croissance qui passe par le progrès technique, bien entendu, l'investissement
et la formation des hommes.
Et la formation des hommes. Voilà, alors c'était un échange très riche. Les convictions du président du Centre des professions financières, monsieur le ministre Edmond Alfandéry, qui vient d'ouvrir le nouvel ouvrage paru il y a quelques mois maintenant, ayant pour titre « La crise de la dette et financement de la nouvelle croissance ». Un ouvrage de 283 pages pour 25 euros du Centre des professions financières sur le thème « La crise de la dette et financement de la nouvelle croissance ». C'était vos convictions. Merci encore et au plaisir de vous retrouver sur notre antenne.
Merci Jean-Louis Champon.